Bonjour, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au sommaire aujourd'hui. L'info du jour, c'est le projet d'usine Bridor abandonné à Liffré. Une interview pour annoncer la troisième édition du prix Éco-Visionnaire avec le réseau Femmes de Bretagne. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage à l'occasion des semaines de santé sexuelle organisées notamment à Rennes et puis recommandation, un atelier d'éducation populaire sur le thème de l'énergie. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Comme chaque jour, on commence avec une info retenue pour vous. Un coup de théâtre, là, d'après le quotidien local Ouest France. C'est le patron Louis Leduf qui jette l'éponge et annonce l'abandon du projet d'usine Bridor. L'entrepreneur breton imaginait installer un nouveau site sur la commune de Liffré, à 20 minutes au nord-est de Rennes. Et ça, depuis 2017, pour produire des viennoiseries industrielles surgelées. Mais c'était sans compter la mobilisation de militants écologistes, notamment le collectif Colère à Liffré-Cormier, remonté contre le coût environnemental d'un tel projet, en particulier la consommation en eau faramineuse dans un contexte que vous connaissez de changement climatique. Après avoir mis un coup de pression auprès des élus à l'automne en menaçant d'aller voir ailleurs, le projet est finalement abandonné. Louis Leduf explique sa décision dans un communiqué publié ce mardi 30 mai. Avec regret pour la Bretagne et ses collaborateurs, Bridor ne peut pas attendre 10 ans pour construire une nouvelle usine. La construction ne peut toujours pas démarrer au regard des recours engagés devant la justice. Une fois tous ces recours purgés, il faudrait compter 2 années de construction pour ce type de site industriel, amenant le démarrage du site au plus tôt en 2028. Une échelle de temps incompatible avec la demande croissante de nos clients, résume l'entreprise Bridor, qui misait sur un investissement de 250 millions d'euros avec une promesse de 500 emplois directs à la clé. Conséquence, le patron il ira voir ailleurs, où les autorisations de construction sont plus rapides. Alors désolé pour le Portugal, les États-Unis et l'Allemagne, mais en tout cas ça ne se fera pas à Liffré. Preuve que la mobilisation citoyenne paye, ça avait déjà été le cas, rappelez-vous, sur un projet de centre commercial XXL à passer en 2019. Allez, après l'info du jour, c'est l'heure d'une interview. Servane Thierry, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes déléguée départementale du réseau Femmes de Bretagne pour l'Ille-et-Vilaine et les Côtes d'Armor, une structure qui lance un appel à candidature en ce moment pour la troisième édition du prix Éco-Visionnaire. Ça se passe jusqu'au 17 juillet, cet appel à candidature. On redit depuis quand existe ce qui est une association, le réseau Femmes de Bretagne?
Exactement, c'est une structure associative.
Qui existe depuis?
Depuis 2015.
Depuis 2015.
Ça fait déjà quelques années. Donc effectivement, c'est l'idée en fait du réseau, c'est de favoriser l'entrepreneuriat en soutenant en fait les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc que ce soit des créations, des reprises ou du développement d'entreprise. Et donc l'idée, c'est de les mettre en lien pour qu'elles puissent échanger, qu'elles puissent se créer un réseau professionnel et puis qu'elles puissent également monter en compétences à travers les échanges qu'elles vont avoir, à travers des ateliers. Donc on a actuellement 1500 adhérentes à peu près et on est soutenu là dans l'association par nos coordinatrices bénévoles qui sont nos représentantes locales et qui crée les événements. On en a fait quand même plus de 600 l'année dernière.
600 événements par an en fait. Ouais, vous couvrez les territoires de la Bretagne et de la Loire-Atlantique.
C'est ça.
Les ateliers là, dont vous parlez se déroulent dans plus de 70 villes. On peut donner des exemples de thèmes qui sont abordés?
Bien sûr. Donc c'est des thématiques entrepreneuriales. Donc ça peut être aussi bien sur des thématiques très techniques liées à l'entrepreneur. Donc, et par exemple, quel est le meilleur statut juridique, les financements qui existe quand on se lance dans une création d'entreprise, mais ça peut être aussi bien sur de la communication, sur du démarchage commercial, et aussi bien sur le bien-être de la chef d'entreprise également, pour l'aider à améliorer sa posture de chef d'entreprise, lui faire découvrir des outils qui existent également quand on se lance dans l'entrepreneuriat pour une meilleure organisation. C'est vraiment très varié.
Vous l'avez dit, il y a 1485 adhérentes, près de 1500 adhérentes, avec des projets d'envergure différentes. Est-ce qu'on retrouve quand même des projets qui se ressemblent ? Il y a des choses qui se détachent un peu ?
Alors, nous, dans l'association, vraiment, on n'est pas limité en termes de secteur d'activité. Donc, on accueille toutes les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc qu'elles soient porteuses de projets ou déjà installées, chefs d'entreprise. L'idée, on est vraiment le réseau. On a à cœur, en fait, justement, d'avoir de la mixité et donc d'avoir des parcours complètement différents et des secteurs d'activité différents. Parce que chacune s'apporte et on est dans du partage, dans de l'entraide, dans du soutien. Donc on n'a pas forcément des secteurs d'activité qui se dégagent. On est sur tout profil, tout domaine d'activité.
Les derniers chiffres révèlent qu'en France, 30% des entrepreneurs sont des femmes. Le chiffre, il est un peu plus élevé pour la région Bretagne. Je crois que c'est 35%.
On est à peu près. Pas encore tout à fait à 35, mais oui, presque.
Exactement. Il reste encore du chemin vers la parité à ces postes d'entrepreneurs en France. Quels sont les freins qu'il reste à lever ?
Pour les femmes, alors c'est vrai qu'il y en a encore un petit peu de chemin à faire. C'est pour ça, d'où l'idée aussi de l'association pour qu'on arrive à une parité dans l'entrepreneuriat. Parce que ce qui est dommage, c'est, comme vous l'indiquiez par rapport à vos chiffres, c'est qu'il reste encore très peu de femmes à se lancer. Enfin, c'est de mieux en mieux, mais en tout cas, par rapport à l'envie qu'elles ont et finalement la réalisation, c'est-à-dire la création d'une entreprise, il en reste trop peu. Les principaux freins, alors c'est vrai que on a toujours cet équilibre, en fait. Elles se posent, on va dire, plus de questions au moment de se lancer dans la création d'entreprise, les femmes. Donc, notamment, sur l'organisation, vie personnelle, vie professionnelle.
Parce que c'est sur elles que repose encore la charge éducative et familiale.
Tout à fait. C'est vrai qu'en fait, elles vont plus, en tout cas, se poser et cette question-là au moment de se lancer qu'un homme qui va se lancer dans un parcours entrepreneurial. Au-delà de ça, ça peut être aussi des freins psychologiques. Il y a aussi beaucoup le frein financier. C'est vrai que les femmes, beaucoup, se posent cette question-là. Est-ce que je peux me permettre de me lancer financièrement ? Puisque forcément, c'est un engagement. On sait qu'on ne va pas avoir un salaire qui va tomber tous les mois. C'est une rémunération, donc c'est plus compliqué. Elles vont se poser plus de questions. Elles ont moins accès en plus au financement. Et puis, elles ont aussi souvent un réseau, on va dire, professionnel plus limité, qui fait que forcément elles vont se dire vu que mon réseau professionnel n'est pas encore totalement développé, est-ce que je vais réussir à développer mon activité aussi bien qu'un homme. Un homme va se poser peut-être moins ce genre de questions et va foncer. Donc c'est important justement qu'on sensibilise à l'entrepreneuriat et qu'on lève ces freins là donc nous c'est aussi notre objectif au-delà de tous les événements qu'on peut organiser, c'est aussi montrer que tout le monde peut se lancer et qu'il n'y a pas de parcours type en fait.
On arrive à la troisième édition du prix Éco-Visionnaire qui, moi, a suscité ma curiosité. C'est un prix qui est organisé tous les deux ans. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'au-delà de l'entrepreneuriat féminin, vous souhaitez accompagner là des projets écologiques et sociaux. Dans quelle dynamique est-ce qu'il a été lancé, ce prix, il y a donc 6 ans, non c'est ça, 5 ans?
Alors, la première édition a eu lieu en 2018, effectivement. Après, on en a eu une deuxième en 2021, puisque, effectivement, avec la période Covid, on a dû le décaler. Et donc là, c'est effectivement la troisième édition. L'idée, c'était vraiment de mettre en lumière vraiment des femmes qui ont des projets justement innovants et comme vous disiez qui sont engagées dans une transition écologique et sociale parce que ça nous semble important, c'est vraiment dans l'air du temps ces projets-là et on se rend bien compte que c'est indispensable maintenant de se poser cette question d'un entrepreneuriat engagé et vu qu'on est sur vraiment nous des parcours de femmes qui se lancent aussi dans des projets qui ont un impact, ça nous semblait important de les mettre en avant puisqu'elles sont encore peu mises en avant et ce sont des projets qui ont beaucoup d'avenir en fait. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit il faut absolument qu'on les mette en lumière et qu'on communique sur ces initiatives-là qui sont des initiatives avec un impact très important.
Parce que ce sont aussi peut-être des projets qui peinent notamment à trouver des financements sur ce type de projet ou pas ?
Alors ça se développe quand même de plus en plus parce qu'on se rend compte que justement l'entrepreneuriat engagé c'est important aussi de se lancer, c'est l'avenir j'ai presque envie de dire puisqu'il y a une prise de conscience qui est là et qui fait que maintenant quand on se lance dans l'entrepreneuriat on se dit quel va être aussi mon rôle et comment je peux moi m'engager sur un projet qui a du sens en fait. C'est aussi donner du sens et donner des valeurs à son projet. Donc ça se développe quand même de plus en plus les financements, mais c'était important déjà de communiquer aussi sur ces projets-là parce que c'est des projets justement où des fois qui ne sont pas forcément toujours mis en avant et donc nous on voulait justement les sortir entre guillemets un peu du lot pour les mettre en lumière.
Ce qui peut être intéressant c'est de citer les projets lauréats sur l'édition précédente du prix Éco-Visionnaire puisqu'il a deux éditions derrière lui ce prix, quatre projets projets qui ont en commun de répondre à un besoin bien réel et puis qui sont vraiment connectés à la période du changement climatique qu'on est en train de vivre. On peut présenter ces différents projets. Il y en a deux qui viennent de notre territoire brétilien.
Tout à fait. Alors peut-être juste pour un petit rappel, c'est vous dire qu'en fait, au niveau de ce prix-là, il y a trois catégories. Il y a une catégorie entrepreneur, donc là, ce sont des femmes qui sont déjà lancées, qui sont déjà immatriculées. Une catégorie porteuse de projet, donc des femmes qui sont en train de porter un projet de création. Et une catégorie association. Donc ça peut être aussi des associations qui peuvent répondre à cet appel à candidature. Et effectivement, sur les précédentes éditions, alors on avait eu sur la catégorie justement entrepreneur, on avait récompensé Marguerite et compagnie, qui sont des distributeurs de services hygiéniques qui sont mis à disposition dans certains lieux.
Et de protection qui sont bio en plus de ça.
Oui, tout à fait. Oui, vous faites bien de le préciser, bien sûr, qui sont bio. On avait eu sur la partie association, on avait eu la fresque océane. Donc l'idée c'est justement de mettre en avant des initiatives pour la protection des océans, donc c'était porté par Alice Vitou.
À l'image de fresque du climat ou de fresque de l'événementiel dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans l'émission d'information, donc là une fresque de l'océan.
C'est ça, exactement, on décline le modèle mais sur les océans. On avait eu l'inédite portée par Sophie Mellé, donc là elle était porteuse de projet, donc l'idée c'était de créer en fait des contenus comestibles. Donc à base de sarrasin, des contenus alimentaires en fait. Hein. Donc pareil, hein, toujours dans cette dynamique de transition environnementale. Et on avait eu un quatrième projet là il y a deux ans, parce qu'on avait eu un projet coup de cœur qui est Easy, qui est basé dans les Côtes d'Armor. Et là, l'idée, c'est en fait en récupérant des déchets organiques issus de l'agriculture, de créer en fait des granulés et des litières pour les animaux. Voilà.
Donc ça c'était le dernier projet, donc les quatre lauréates du prix Écovisionnaire édition 2021. Il se passe quoi pour ces lauréates? Je crois qu'il n'y a pas forcément de prix financier, mais justement on est plutôt sur une opération de communication.
C'est ça, on est vraiment sur de la mise en lumière et montrer l'importance de ces projets et ces super projets hein, qui sont en plus, je vous ai dit, innovants. Donc en fait la récompense, donc là l'appel à candidature se terminera mi-juillet. Il y aura un jury après qui se réunira, bien sûr, qui sélectionnera un certain nombre de projets par catégorie. Et il y aura donc une remise des prix début novembre, le 9 novembre, qui aura lieu à Nantes, au siège de la BPGO. Et l'idée, ce sera en fait de leur offrir une vidéo promotionnelle pour mettre en l'honneur leur activité, parce que l'idée, c'est de se déplacer et de montrer comment elles travaillent et de justement de montrer leur activité pour faire de la communication et mettre en avant leur projet ou leur entreprise ou leur association.
Question de curiosité, vous citez la BPGO où se déroulera la remise des prix à l'automne, donc la Banque Populaire Grand Ouest qui est un des partenaires de cette édition du prix Écovisionnaire. Est-ce que c'est un sujet qui peut faire débat peut-être dans le réseau Femmes de Bretagne de qui on choisit pour partenaire quand on a un prix Écovisionnaire et qu'on sait qu'on va être un peu regardé sur qui on choisit comme partenaire?
Bien sûr. L'idée c'est bien sûr d'avoir des partenaires qui ont aussi à cœur de porter ces valeurs de transition environnementale et sociale et qui aussi eux mettent en avant des initiatives et qui sont engagés dans cette transition. Donc bien sûr que ça en fait partie quand on choisit nos partenaires. Donc c'est pour ça qu'on a essayé en tout cas de rester cohérent et c'est pour ça qu'on est aussi financé sur ces thématiques-là par notamment la région Bretagne et aussi BPI qui nous finance parce qu'ils sont aussi engagés, ils ont à cœur en tout cas de mettre à l'honneur et de vouloir développer ces projets-là qui sont des projets à impact.
Alors si je vous reçois, c'est que l'appel à candidature, on l'a déjà dit, je le répète, est lancé pour la troisième édition du prix Écovisionnaire depuis le 15 mai et jusqu'au 17 juillet. Est-ce qu'il y a des critères à respecter pour candidater, notamment sur l'avancée de son projet d'entreprise?
Tout va dépendre en fait de la catégorie dans laquelle on postule. Mais après nous, si on considère que ça ne rentre pas forcément dans la catégorie, on peut se permettre aussi de changer. C'est-à-dire porteuse de projet, il faut quand même avoir un business plan bien monté parce que c'est important aussi que l'idée c'est de le faire aboutir. sortir hein, ce projet-là. Le prix dirigeante, ce sont des entreprises immatriculées, donc souvent elles ont moins de 5 ans, hein, c'est souvent des jeunes entreprises, puisque en fait l'idée, c'est vu que c'est d'avoir une vidéo promotionnelle, c'est plutôt des entreprises qui ne sont pas encore forcément très connues, donc c'est de les mettre en avant. Donc c'est surtout ça les critères. Après, bien sûr, ce sont que des projets portés par des femmes. Donc, et après, impact social, environnemental, bien sûr, et un ancrage, bien sûr, territorial fort aussi. Ça, on veut aussi insister là-dessus, parce que c'est important de faire jouer aussi le local dans ces projets.
Le nom des lauréats sera dévoilé à l'automne. Les trois prix seront décernés, on l'a dit, un prix entrepreneur, un prix porteuse de projet et un prix pour une association portée par une femme. Ma dernière question, c'était de vous demander si ces projets récompensés, ce sont encore des projets qui sont un peu à la marge dans l'écosystème d'entreprise, là pour la région Bretagne et Loire-Atlantique, puisque vous couvrez ces deux territoires. Est-ce que ce sont des projets encore à la marge? Est-ce qu'ils deviennent de plus nombreux? Et puis surtout, est-ce qu'ils tiennent sur la durée?
Alors, ils tiennent sur la durée, oui. oui, c'est vraiment quand même aussi l'idée. Alors, c'est encore des projets qui sont pas dans la majorité des projets, mais qu'ils deviennent de plus en plus. Parce que nous, on le voit bien vraiment au sein du réseau. En général, les femmes, quand elles se lancent, c'est vraiment... Elles ont à cœur de porter un projet qui a du sens et un impact. Alors après, ça peut être à tout niveau, hein, cet impact. Mais vraiment, les projets qui sont engagés dans cette transition-là écologique, bah, on voit bien que c'est quand même important et ça fait partie de l'avenir. Et qu'il faut qu'il y ait des changements qui soient apportés. Donc, il y en a quand même vraiment de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue aussi ce mouvement-là et qu'on cherche justement à mettre en avant ces projets pour qu'il y en ait justement de plus en plus et que tout le monde puisse s'engager justement dans cette démarche.
Je vous représente, Servane Thierry, vous êtes déléguée départementale du réseau Femmes de Bretagne pour l'Ille-et-Vilaine et puis les Côtes d'Armor, une structure qui vient donc de lancer un appel à candidature pour la 3e édition du prix Écovisionnaire. Les entrepreneurs ont jusqu'au 17 juillet pour candidater. Pour plus d'infos, il y a le site internet femmesdebretagne.fr et puis les résultats seront dévoilés à l'automne. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Perdu dans le cœur des foules, rien à faire là. Vos sirènes, vos sons, vos sourds, je n'ai rien à faire là. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine. Tout est chaleur humaine. Porte fruit. Porte fruit. Noyé dans l'enfer des chiffres, je ne sais qu'en faire. On dirait que ma tête affiche s'en va boire un verre. Oh maman, dis-moi quand tu viens. Oh maman, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte fruit, porte fruit, oh, porte fruit. J'attends dans la brume du soir l'apocalypse. Chaque fois je crois la voir et puis elle s'éclipse. Oh mon frère, dis-moi quand tu viens. Ouais mon frère, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte fruit, porte fruit, oh porte fruit. Hey.
Nicolas Michaud et sa chaleur humaine, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur ici à Canal B. Et c'est sorti le 24 mai chez Capitan Records. Alors Nicolas Michaud, c'est un Belge qui mène une carrière solo depuis bientôt 10 ans et à son actif deux albums studio, le dernier sorti en 2020. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être connecté sur notre merveilleux site internet canalb.fr. On passe tout de suite au reportage du jour. Depuis le 22 mai jusqu'au 18 juin, les semaines de santé sexuelle s'installent en Bretagne. À Rennes, une journée de rencontre entre professionnels était organisée ce mardi 30 mai au Triangle et pilotée par le réseau Louis Guillou. Sur place, des temps de sensibilisation étaient proposés et une quinzaine de structures de soins et de prévention présentaient leur action sur des stands. Reportage.
Ma notion préférée du monde, le stress minoritaire. Alors, qui est valable, pas que pour les personnes trans. Donc le stress minoritaire, c'est le fait d'avoir un stress dû au fait d'appartenir à une minorité.
Antonin Lemay,
d'être dans la normalité.
Du centre LGBTI+, ISKIS.
Alors, ça peut être parce qu'on a plus de difficultés à accéder à des ressources, parce qu'on est plus exposé à des violences, parce qu'on est plus exposé à des discriminations, parce qu'il y a du rejet, etc. Concrètement, alors, c'est pas genre je vis dans le stress, etc., mais c'est un bruit de fond qui est toujours là dans la vie des gens. En fait, une personne qui fait pas partie d'une minorité va vouloir recourir à un service, hop, elle le fait. Une personne issue d'une minorité, pour recourir au même service, elle peut se dire « Ah, peut-être qu'on va me refuser l'accès, donc va passer plus de temps à vérifier où est-ce qu'elle peut aller. Va peut-être avoir plus peur, va peut-être pas oser, va peut-être pas y aller. »
Tout, 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 mauvais pour la santé, tout, tout, tout.
C'est une journée qu'on a organisée, on a un groupe de travail sur la ville de Rennes sur les questions de santé sexuelle. On avait déjà organisé des choses en 2021 et du coup on a fait le choix cette année d'organiser plutôt un tour en direction des professionnels. Et donc ici au Triangle, le lieu s'y prête assez bien. Et donc voilà, donc ça réunit un ensemble de partenaires alors de la ville de Rennes, mais pour la plupart des structures, elles interviennent à minima au niveau départemental, voire au niveau régional. Donc Myriam Bess, moi je travaille pour une association qui s'appelle le réseau Louis Guillou. On a plusieurs pôles d'activité, dont le pôle de coordination en santé sexuelle. C'est un pôle qui organise, qui coordonne des projets autour des questions de santé sexuelle sur la région Bretagne.
Donc moi je suis Adija Chambril, je suis coordinatrice du Corps et Vie Bretagne, qui est la coordination régionale VIH. Donc on est en charge de coordonner les acteurs sur la région, sur les thématiques du VIH, des IST et de la santé sexuelle plus largement. C'est une structure de démocratie sanitaire, donc on fonctionne avec 4 collèges, dont un collège qui est quand même à remarquer, c'est le collège 3, le collège des représentants d'usagers. Et l'intérêt, c'est que le positionnement de chacun a la même valeur au fait dans les décisions politiques du Corps et Vie, et notamment dans l'une de nos missions qui est d'accompagner et d'appuyer la mise en œuvre des politiques régionaux autour de la thématique de la santé sexuelle.
On dit que cet événement il s'inscrit donc dans les semaines de santé sexuelle au niveau, c'est quoi, c'est régional, national ?
C'est régional. On l'a initié en Bretagne en 2019. Hein, donc effectivement, nous, on avait une mission qui allait vers la santé sexuelle. Et on s'est aperçu que les professionnels de la réduction des risques, VIH, IST, avaient une autre culture que les gens qui intervenaient dans la santé sexuelle, la contraception, IVG, et qui avaient besoin de construire une culture commune pour justement déterminer des parcours et bien orienter. Donc on l'a mis en œuvre depuis 2019 et dans le cadre de la stratégie nationale santé sexuelle, la deuxième feuille de route, cet événement-là a été nationalisé. Donc depuis 2022 et on a fait le choix aussi d'avoir une semaine par département. Donc c'était les Morbihans la semaine dernière, cette semaine c'est l'Ille-et-Vilaine. Donc il y a la première action qui se passe à Rennes, mais il y a aussi des actions à Redon, à Vitry, à Saint-Malo, vraiment sur l'ensemble du département, pour aussi voilà, avoir une vision territoriale des structures qui s'y trouvent et aussi accompagner le parcours des personnes et amener aussi les bonnes nouvelles dans la santé sexuelle, la contraception gratuite jusqu'à 26 ans, les personnes séropositives en charge virale indétectable qui ne contaminent plus. Et on s'aperçoit que le grand public est éloigné de ces informations-là. Il y a eu aussi une multitude de dispositifs mis dans le cadre des violences qui sont faites. Et l'idée, c'est vraiment apporter au public ces informations-là.
Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir favoriser l'interconnaissance des structures entre elles qui interviennent sur la santé sexuelle, parce qu'on s'est aperçu, notamment avec le Covid, Il y a eu quand même pas mal de turnover dans les équipes, des liens qui se sont perdus, qui sont à recréer. Des fois, on méconnaît un peu les missions des uns et des autres, et donc c'était important d'avoir ce temps-là. Et du coup, en même temps, de proposer des temps de sensibilisation pour les professionnels du territoire rennais.
La journée, en effet, était ponctuée de 3 temps de sensibilisation. On y a parlé de genre et de transidentité le matin, puis l'après-midi de santé sexuelle et de consommation de produits, avant de consacrer un dernier temps aux violences sexistes et sexuelles.
Là, sur l'événement, il doit y avoir une quinzaine de partenaires, je crois.
Ouais,
est-ce qu'on peut dire que la région rennaise est quand même particulièrement dynamique, avec beaucoup de collectifs, d'associations, puis aussi de structures plutôt institutionnelles, avec chacune sa spécialité, son domaine d'expertise. Et c'est peut-être là que c'est parfois difficile pour l'usager de repérer qui fait quoi, de se tourner vers la bonne structure. C'est aussi un enjeu.
Oui, alors après, du coup, l'interconnaissance des partenaires va favoriser l'orientation du public. Et du coup, c'est un peu ça notre travail, du coup, c'est que mieux on se connaît les uns les autres, mieux on connaît nos missions respectives, plus c'est facile après d'orienter les personnes qui nous contactent. Après, effectivement, sur la région rennaise, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là, c'est un petit, une petite photographie, hein, parce qu'il y a effectivement une quinzaine de structures présentes aujourd'hui. Mais voilà, il y a aussi après toutes les associations qui interviennent en vie affective et sexuelle, relationnelle, par exemple, qui ne sont pas forcément présentes aujourd'hui.
Après, je dirais que l'Ille-et-Vilaine et Rennes, il y a aussi les sièges des structures et surtout les assos. Mais pour avoir fait les événements dans le Morbihan, on a plein de structures, au fait, départementales, comme les centres de santé sexuelle, et qui a une couverture territoriale assez phénoménale. Si on compare, par exemple, les centres de dépistage, les Cégides, aux centres de santé sexuelle, les Cégides en Bretagne sont très côtiers, d'où l'intérêt aussi de travailler en partenariat et d'apprendre à se connaître ensemble, parce que justement, un Cégide qui se trouve en bord de mer peut tisser un partenariat avec le centre de santé sexuelle pour que les personnes dans les terres puissent aussi avoir accès à l'information et vraiment avoir une couverture territoriale intéressante.
Ma dernière question, c'est de vous demander s'il y avait des chantiers urgents à mener quand on parle de santé sexuelle.
Pour moi, l'important, c'est la communication auprès du grand public. Effectivement, il y a des nouvelles lois sur l'accessibilité de la contraception d'urgence gratuite pour toutes, par exemple. On voit que c'est encore des messages qui ne sont pas complètement passés. On peut discuter avec des jeunes qui ne sont pas au courant, s'ils sont dans un établissement public, que la contraception d'urgence peut être gratuite et disponible au niveau de l'infirmerie scolaire. Donc c'est vraiment ça, en fait. On sème des graines, quoi. On la donne l'info, et puis maintenant, à chacun de pouvoir réinformer autour de lui, parce que nous, on n'a pas une force de frappe terrible, en fait.
Et puis peut-être d'avoir des moyens supplémentaires sur la santé sexuelle, mais en attendant d'avoir des moyens, c'est bien se connaître pour justement permettre une personne isolée d'avoir des points relais, des structures relais à proximité. On va aussi dans le bon sens, hein, notamment sur l'augmentation de l'offre en dépistage. On voit le dispositif VIH test, où on peut aller dans un labo pour se faire dépister.
Bah, ça, c'est pareil, toi qui es dans le grand public, qui est vraiment au courant.
Voilà, exactement. Et ça va être effectivement la communication. Et je dirais, au niveau des pouvoirs publics, quand on est en santé publique, on a besoin d'analyser les choses pour pouvoir adapter. Donc il faut aussi que dans les temps de travail, dans les missions des structures, ce temps-là soit vraiment respecté et posé pour pouvoir justement apporter la meilleure offre. Je dirais que tout le monde est concerné. Du plus petit, hein, savoir quand est-ce que c'est mon corps, comment défendre mon corps, jusqu'à la personne âgée en EHPAD qui a le droit à une vie sexuelle et avoir une chambre avec son compagnon. Donc je dirais que toute la population est concernée par la santé sexuelle.
Moi, c'est Aurélien. Du coup, je fais partie du collectif Thomas Boulou dans le Finistère. Qui travaille sur la contraception testiculaire et la responsabilité masculine dans toutes les questions de sexualité, etc.
Moi, c'est Camille, je fais partie de Rennes Antisexiste, un collectif principalement de mecs cis qui travaillent sur les dynamiques antipatriarcales. Du coup, nous, on a un volet sur les contraceptions testiculaires, mais aussi on fait plein d'ateliers sur toutes les questions de consentement, de violence masculine, de sexisme de manière générale.
Donc Thomas Boulou, ça existe depuis 2015. En fait, on était un petit groupe de gars qui avaient envie d'une part de maîtriser notre fertilité et de travailler sur ces choses-là, de trouver des solutions en fait pour nous, et d'autre part d'intervenir et d'interpeller les gars en général sur qu'il serait temps qu'on fasse des choses pour que ça bouge, quoi, que ça avance, qu'on prenne nos responsabilités, etc. On a fait des petites recherches, des lectures, on a un peu compris des choses et réussi à les synthétiser sur le fonctionnement de l'appareil génital, le fonctionnement des méthodes de contraception qui étaient quasiment inconnues à ce moment-là. Et puis on a diffusé pas mal et ouais, c'est vrai que c'est parti de chez nous un petit peu tout un grand mouvement aujourd'hui de développement de ces méthodes et en particulier la méthode thermique du remonte-couille. On a une permanence à Quimper tous les premiers samedis du mois où on accueille, on informe, on discute et aussi on a l'atelier couture, on fabrique, on coud.
Bah là sur le stand, il y a une table qui est plutôt sur les contraceptions testiculaires avec à la fois des BD, des brochures qui expliquent un peu les différents modes de contraception. Et il y a notamment une présentation de ce qu'on appelle la contraception thermique. Là il y a deux outils, il y a ce qu'on appelle le remonte-couille toulousain et l'androswitch qui utilise la même technique quoi. C'est un outil qui remonte les testicules pour qu'elles se recollent au corps et qu'elles redeviennent la température du corps, ce qui empêche la spermatogénèse. Elle revient dans la cavité, je ne sais jamais son nom.
Alors, c'est pas dans les cavités inguinales, mais à l'entrée, quoi. À l'entrée des cavités inguinales, donc dans l'aine.
Ce qui peut effrayer, c'est le fait que ça doit être porté sur une durée assez longue, non, c'est ça ?
Eh bien, il faut le porter 15 heures par jour, à partir du moment où on souhaite contracepter. Et au début, c'est pendant 3 mois, parce que la spermatogénèse, ça met 3 mois à se faire. Il faut donc 3 mois avant d'être contracepté. Okay. Et on fait un spermogramme pour vérifier qu'on a les bons taux de spermatozoïdes par millilitre de sperme qu'il faut être en dessous de 1 million. Et quand on est en dessous de ce 1 million, on refait des tests de temps en temps et puis on s'assure qu'on est bien contracepté. Et ben nous, on a un jeune collectif, on a lancé ça il y a à peine 6 mois. On est plutôt 7 à peu près, 6-7, mais on brasse plus de gens sur nos ateliers. Il y a des gens qui viennent pour une fois, d'autres qui viennent pour plusieurs fois, ça dépend. Alors les ateliers en ce moment c'est toutes les 2 semaines à peu près, là il y en a un ce soir par exemple sur les violences masculines et comment réagir quand on nous témoigne de violence ou quand on est auteur aussi, c'est un peu le sujet de ce soir. Et on fait des permanences une fois par mois, de les premiers mardis du mois, sur les questions de contraception testiculaire.
Peut-être une question pour vous deux, qu'on soit à Rennes ou plutôt du côté de Quimper. Donc il y a des initiatives qui sont nées il y a un peu moins de 10 ans. On en parle plus, le sujet est quand même plus médiatisé ces dernières années. Au-delà de susciter la curiosité, est-ce que c'est dur de faire venir de nouveaux participants et de convaincre sur vos idées ?
Pour l'instant, c'est quand même, en tout cas nous à Rennes, c'est quand même pas mal des gens qui sont proches du milieu féministe qui viennent. J'ai l'impression qu'on a du mal à toucher un public large aujourd'hui. Pour l'instant, on touche quand même un petit cercle. Mais j'ai l'impression que c'est important d'abord de consolider ce cercle-là, même si on a envie très vite d'élargir la chose-là. Et nous, on est pas mal aussi à apporter le truc de s'autonomiser sur nos contraceptions et de le politiser aussi, et de dire ça touche les questions de violence, les questions de charges contraceptives, les questions de communication aussi, qui sont pas évidentes quand on a un homme.
À Quimper, nous, on n'a jamais fait de... beaucoup de publicité sur notre permanence, c'est le bouche à oreille en fait. Donc au début c'était nos potes, et puis après petit à petit les potes des potes, etc. Et il y a tout le temps du monde, hein. Tous les mois il y a tout le temps des gens. Et plus ça va aujourd'hui, plus c'est entre guillemets monsieur tout le monde quoi. Avec quand même beaucoup de jeunes, des trentenaires quoi on va dire.
Et là, on vous retrouve donc sur un stand dans les semaines de santé sexuelle ici à Rennes. Ça montre quand même que votre sujet intéresse, parce que c'est un événement à la fois associatif, mais on retrouve aussi un côté un peu institutionnel. Mmh. Pourquoi c'est important pour vous d'être là ?
En fait, des structures qui bossent déjà avec des publics sur des questions de santé sexuelle, de contraception, de prévention, enfin de l'IVG, prévention des IST, prévention des violences, etc. Toutes ces structures-là, en fait, c'est bien qu'elles soient au courant, bon, non seulement que ça existe, mais aussi de savoir c'est quoi les supports, les outils, les contacts qui peuvent mobiliser, quoi.
Voilà, et donc à l'inverse, il n'y a pas une question sociale qui ne concerne pas des personnes transgenres. Tout ce qui va en plus amener de la précarité et de la vulnérabilité en général va forcément toucher de plein fouet des personnes transgenres. Enfin, pas forcément toutes, hein. Mais touchera plus, donc réforme des retraites, sujet transgenre.
Alors je m'appelle Floriane Lesourd et je travaille en tant qu'écoutante et informatrice
au PAEJ, le SAS, au 4 bis, à Rennes.
PAEJ, ça veut dire ?
Point Accueil Écoute Jeunes. Ça fonctionne comment, en fait ? C'est pour les jeunes, c'est un accueil anonyme, confidentiel et gratuit. Et on est ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h. Il y a aussi des professionnels qui tiennent des permanences, comme une psychologue le vendredi après-midi, et des professionnels du XAPA, de la CJC, qui tiennent des permanences le mardi et le jeudi.
Le XAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, propose en effet des consultations jeunes consommateurs.
Alors, c'est avec ou sans rendez-vous. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez venir directement au 4 bis, au premier étage. Et aussi, ma collègue tient un site internet, Les Promeneurs du Web. Donc c'est Mélanie.
Quels sont les sujets que les jeunes abordent ? Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent ?
Alors c'est tous les sujets concernant la santé. Donc ça peut être des sujets au niveau de la violence, soit au niveau de la famille, soit au niveau scolaire. Ça peut être au niveau des drogues, au niveau de l'alimentation. Tous les sujets concernant la santé. Le harcèlement, c'est vraiment un lieu sur lequel ils peuvent échanger, et s'ils n'osent pas en parler avec l'infirmière du lycée, avec leurs parents, avec leur éducateur, avec leurs amis, bah ils viennent sur ce lieu-là et ils peuvent soit prendre de l'information, soit échanger sur des sujets, et aussi peuvent venir se servir d'éthylotests, de préservatifs, de bouchons d'oreilles.
Je vois qu'il y a un cabinet de curiosité, est-ce qu'on peut y jeter un œil ?
Bien sûr.
Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 grilles avec des rideaux noirs et on peut entrer dans ce petit espace. Qu'est-ce qu'on voit sur les murs ?
Alors c'est un outil là sur comme thématique la vie affective et sexuelle. On peut aller se déplacer dans les maisons de quartier comme dans les lycées.
Sur de l'événementiel peut-être aussi
Sur de l'événementiel aussi comme à quartier d'été où on sera présent cet été. Et c'est un outil aussi qu'on peut prêter aux professionnels. Après, c'est en plus un outil qu'on adapte en fonction du public. Et on peut aborder aussi d'autres thématiques.
Je ne me tue pas, c'est mauvais pour la santé. Je ne meurs pas, c'est mauvais pour la santé. Je ne me tue pas, c'est mauvais pour la santé. Je ne meurs pas, c'est mauvais pour la santé. Joyfully, oh, playfully, watching me.
The Logical Song de Supertramp sur Canal B, un morceau qu'on retrouve sur l'album Breakfast in America. C'est sorti en 1979. C'est alors le sixième disque du groupe londonien qui a ensuite officié jusqu'en 2015. Vous êtes dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B. On va continuer et terminer avec la recommandation du jour. Au passage, je vous le dis régulièrement, si vous avez une action ou un événement à annoncer aux auditeurs, que ce soit avec votre association, votre collectif ou autre type de structure, tant que la visée n'est pas purement lucrative, vous pouvez m'envoyer l'info par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et puis je reprends contact avec vous pour vous proposer une interview ici en studio, un reportage sur le terrain ou pour l'annoncer sous forme de recommandation. Et là voilà, la recommandation du jour, c'est un atelier d'éducation populaire sur le thème de l'énergie. Rendez-vous jeudi 1er juin à 19h30 à la MCE, Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes, c'est tout près de la gare. Aux commandes, on retrouvera l'association Alternatiba Rennes et puis Thomas Patenotte. Ce dernier est l'un des coordinateurs du pôle énergie renouvelable à Brèze-Alec, le réseau breton des agences locales énergie-climat. Et il anime aussi un réseau d'énergie citoyenne qui s'appelle Taranis. Ensemble, ils animeront un atelier énergie mix dans un contexte d'augmentation du prix de l'énergie, de volatilité du prix des matières premières, mais aussi de raréfaction des ressources et de conflits géopolitiques. On peut le dire, l'énergie a une place centrale dans nos sociétés. Pourtant, le sujet il reste assez méconnu. En deux petites heures, les intervenants présenteront différents scénarios énergétiques, un point de départ à un échange sur les différentes visions de l'énergie avec ce grand défi. Quel choix faire localement et à l'échelle du pays pour construire une société bas carbone dès 2050. Est-ce qu'on y croit encore ? L'entrée est libre, il est suggéré d'amener de quoi boire et de quoi manger. Pour plus d'infos, il y a toujours le site ec-lr.org. L'arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.